formelles.
Scientific statistics are formal.
Absolute. Absolute. Et déprimante. Nous oublions 92% de ce que nous apprenons. Donc j'espère que ce matin, les 8% que vous allez retenir seront des choses importantes. On sait qu'on commence à perdre la mémoire par deux signes. Le premier, c'est que l'on oublie les prénoms de personnes que l'on connaît bien. Vous savez que ça m'arrive souvent maintenant. Et le deuxième signe, je ne m'en souviens plus. J'ai oublié de vous rappeler les réunions de la semaine. Mercredi soir, étude biblique à Aimé Martin. Et même endroit, jeudi à 19h pour la réunion de prière qui commence par un repas et puis se poursuit par un temps de prière pendant une heure à partir de 8h, 8h30. Voilà, alors ça c'est des... J'espère que ça va figurer parmi les 8% que vous retenez. Ce qui est incroyable, c'est que ces 8% correspondent quand même à un volume d'informations faramineux. At least. Savez-vous combien il y a de livres dans la bibliothèque du Congrès américain?
Do you know how many books there are in the Library of Congress, the American Library of Congress?
Dans la Bibliothèque nationale de France?
Or the National Library in France?
Vous avez oublié. Il y en a, vous l'avez jamais su, il y en a 17 millions dans la librairie du Congrès. 13 millions à la Bibliothèque nationale française.
And 13 million in the French National Library.
Et tout ce que vous vous souvenez, tout ce qui est dans votre crâne, s'il fallait le mettre sur le papier,
if we had to put it on paper,
ça représenterait 10 fois le volume des livres de la Bibliothèque du Congrès. 170 millions de livres.
Would represent 110 million books, way beyond the number of books in those libraries.
170 millions. Alors bien sûr, souvent c'est des détails insignifiants.
Often these are insignificant details we remember.
On se rappelle des chants de certaines chansons.
We remember words to certain songs.
Des endroits, des odeurs. Pas facile de décrire une odeur. Et donc aujourd'hui, je voulais vous féliciter, vous êtes vraiment remarquable. 170 millions de livres dans votre tête. Ça me rappelle la statue de la bibliothèque à Nice. Vous avez vraiment une tête comme ça. Mais nous avons besoin d'aide pour nous rappeler les choses importantes. C'est pour ça qu'il y a tant d'examens à l'école. C'est pourquoi on fait des commémorations comme la fête des mères aujourd'hui. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le jour de Memorial Day.
It's Memorial Day.
Qu'on pourrait traduire par la journée du souvenir.
Or we could translate that as the day of remembering.
Remembrance. À l'origine, c'était pour les soldats, pour se rappeler des soldats morts pendant la guerre civile américaine.
In the beginning, it was a day that was to remember the soldiers that were killed in the Civil War, the American Civil War.
Et après, on a ajouté toutes les morts de toutes les autres guerres qui ont suivi, malheureusement.
And after they added all the soldiers killed in all the following wars.
C'est un peu comme si on mettait ensemble le 8 mai et le 11 novembre. Pour notre famille, c'est aussi un jour particulier.
And for our family, it's also a special day.
Parce que ça fait 10 ans jour pour jour.
Because it's 10 years, day for day.
Que Sébastien, Tony, Nancy et moi avons pris l'avion pour quitter Seattle pour venir en France. Pour travailler à temps plein pour le Seigneur. D'abord pour remplacer pendant un an un pasteur d'une église évangélique libre.
At the beginning, we replaced a pastor in a free evangelical church.
Avant de commencer Calvary Chapel Nice en 93.
Before we began Calvary Chapel Nice in 1993.
Sébastien avait 7 ans.
Sebastian was 7.
Tony en avait 10.
Tony was 10.
Nancy et moi, on en avait 10 de moins. Le souvenir. Nous allons voir que aujourd'hui, dans notre passage dans l'Ancien Testament, Dieu va demander aux Israélites de bâtir un mémorial, de dresser des pierres en commémoration d'un grand événement.
God is going to ask the Israelites to build a memorial to remember a great event.
Et encore une fois, il est bon de se rappeler que la façon dont Dieu agit avec Israël, c'est une illustration de la façon dont il va agir avec nous. Et donc, l'Ancien Testament prend alors une toute autre dimension. Il nous parle directement. Vous vous souvenez que les Israélites qui avaient été libérés de l'esclavage en Égypte, avaient erré dans le désert et étaient enfin amenés à traverser le Jourdain. Ils étaient partis de quelque chose pour aller vers quelque chose. Nous allons voir aussi que dans notre vie spirituelle, nous quittons quelque chose pour entrer dans autre chose. Il y a une libération qui doit conduire à une consécration. Je vous invite à lire ensemble le chapitre 4 de Josué. Vous vous souvenez que Josué avait fait placer l'Arche de l'Alliance au milieu du Jourdain. Et que dès que les porteurs de l'Arche avaient par la foi mis leurs pieds dans le Jourdain, les eaux s'étaient arrêtées en amont. Et tout le peuple avait pu traverser.
And all the people were able to cross.
Et lisons verset 1 du chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous. » et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, « Que sont ces pierres pour vous ?» vous leur direz, « C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche continuaient à se tenir au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 guerriers en armes passèrent devant l'Éternel, prêts au combat, en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. » Alors Josué donna cet ordre aux sacrificateurs remontés du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils détachèrent la plante de leurs pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant, tout le long de ses berges. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Il dit aux Israélites, « Lorsque demain vos fils demanderont à leur père que sont ces pierres, vous instruirez vos fils et vous direz, « Israël a traversé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous le cours du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des joncs qu'il a mise à sec devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé. » C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que par la main de l'Éternel, que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Nous allons nous arrêter là. Le passage du Jourdain. Nous l'avons dit, le passage de la mer Rouge, ça symbolise notre délivrance du péché. Ça représente le moment où nous venons à Christ.
It represents the time when we come to Christ.
Nous sommes sauvés.
We are saved.
Mais est-ce que nous sommes en terre promise ? La terre promise, c'est pas le paradis.
The promised land is not heaven.
La terre promise, c'est une terre qui découlait de lait et de miel.
The promised land is a land flowing with milk and honey.
C'est une terre où il y a des batailles.
But it is a land where there is battle.
Mais c'est une terre où il y a des victoires. Si nous devons combattre pendant toute l'éternité,
eternity,
ça ne sera pas vraiment du repos.
It wouldn't be very restful.
La terre promise, c'est à notre portée dès maintenant.
The promised land is available to us right now.
La terre promise, c'est de vivre une vie de victoire de chrétien. Consacré.
The promised land is to live a victorious
Et nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement d'être délivré du péché. Ça représente la justification en termes théologiques.
That would be called or referred to as justification in theological terms.
D'un moment à l'autre, nous sommes déclarés dignes de l'amour, dignes de vivre avec Dieu.
At one moment in time where we are declared worthy of God's love.
Pour vivre avec lui pour toujours. Mais nous pouvons continuer à tourner dans le désert en rond.
But we can still continue to wander in the desert.
Par manque de foi, nous n'allons pas entrer dans cette terre promise.
And due to a lack of faith, we will not enter this promised land.
Cette terre promise, nous avons dit, c'est aussi la terre où nous vivons par l'Esprit, selon l'Esprit.
And we said that this promised land is a land where we live by the Spirit.
Ça correspond à cette onction de l'Esprit qui nous donne la victoire et fait de nous des témoins puissants, effectifs, efficaces. Et donc, non seulement nous devons être libérés, mais nous devons aller vers une consécration. C'est un message qu'on retrouve dans tout le Nouveau Testament. Si vous prenez des notes, je vous invite à noter quelques versets. Si vous voulez prendre des notes, Paul a préparé des supports de notes qui sont sur la table à l'arrière. Ça aide à se rappeler des choses importantes. Plutôt que de la couleur de la cravate du pasteur. Non, tout le monde va regarder. Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Colossiens 2:20. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. L'enseignement de ces passages, c'est que avec la mort de Christ, le croyant est mort aussi. Et dans sa résurrection, le croyant est ressuscité à une nouvelle vie. Vous avez remarqué qu'en fait, il y avait deux tas de pierres, de 12 pierres qui étaient dressées. Il y en avait un qui était dressé sur la rive droite du Jourdain. L'autre était placé au milieu du Jourdain pour être recouvert par les eaux dès que l'arche était sortie du Jourdain. Et ce mémorial dans l'eau typifie la mort.
Is a type for death.
La mort de Christ,
the death of Christ,
notre mort avec lui,
our death with him,
le mémorial de 12 pierres sur la rive,
and the memorial on the bank,
en terre promise,
in the promised land,
c'est un type de la résurrection.
Is a type of the resurrection.
Ce soir, nous allons célébrer des baptêmes. Et ces baptêmes sont un symbole de cette vérité que le croyant meurt à sa vieille nature pour ressusciter à la vie avec Christ. J'aimerais bien qu'on lise ensemble Romains 6, qui est le passage clé du Nouveau Testament concernant ces choses. Encore une fois, il est important de comprendre que j'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que Paul développe dans ce début de chapitre 6.
And this is the idea Paul is developing in the beginning of chapter 6 in Romans.
Il nous dit donc, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Nous sommes morts au péché. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort, par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché, ne doit plus rien au péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus.
So Pierre just read to us the first 11 verses of chapter 6.
Et ça, c'est une des vérités les plus profondes du Nouveau Testament.
And this is one of the most profound truths in the New Testament.
Une des choses que vous devez mettre dans les 8% que vous allez retenir aujourd'hui.
One of those things you should keep in that 8% that you're going to retain from this morning.
La mort,
death,
l'ensevelissement,
burial,
et la résurrection de Christ,
and resurrection, the resurrection of Christ,
indique ce qui arrive à la personne qui place sa confiance en lui pour le salut.
Indicates what will happen to the person who puts their faith in him for salvation.
Si vous êtes chrétien, ce n'est pas quelque chose qui va se passer maintenant. C'est quelque chose qui s'est passé au moment de votre conversion. Ce qu'on appelle aussi votre régénération. Votre nouvelle naissance. Il faut simplement le reconnaître et en tenir compte dans votre vie. Prendre ça en compte. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. C'est quelque chose qui a déjà pris place. C'est une réalité spirituelle que nous devons accepter par la foi. Et nous devons en tirer les conséquences Nous devons vivre les conséquences de tout notre cœur. Je suis mort au péché.
I am dead to sin.
Il est dit que dans le passage que nous avons lu, verset 6 de Romains 6, notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Et que nous soyons plus esclaves du péché.
So that we might no longer be a slave to sin.
Notons bien que Paul a dit que nous devons réaliser que nous sommes morts au péché.
Note well that Paul is telling us that we need to recognize we are dead to sin.
Il dit pas que le péché est mort en nous.
It's understood that sin is dead in us.
Parmi les 8% des choses dont je me souviens,
and amongst that 8% of things that I remember,
je me souviens des problèmes mécaniques que j'ai eus avec ma première voiture.
Pierre remembers the mechanical problems he had with his first car.
Pour ceux qui connaîtraient, c'était une Sim Camille bleu tomate.
Who know it was a Simca 1000 blue.
Avec laquelle j'essayais d'impressionner Nancy. Mais je tombais sans arrêt en panne. J'ai appris la mécanique avec cette voiture.
And he called the mechanic for the car.
Et je me souviens avoir changé le moteur une fois.
And he remembers one time he had to change the motor.
Je l'avais fait faire, j'avais participé un peu aux travaux.
He had someone do it, but he helped with the work.
Et donc j'étais enfin tranquille, je pouvais aller emmener Nancy en promenade. Mais en allant la retrouver, d'un seul coup, je ne pouvais plus passer les vitesses. L'embrayage était fichu.
The gearbox was totally shot.
Je pouvais accélérer tout ce que je voulais.
He could put the gas down as much as he wanted.
Ça faisait un bruit énorme, de la fumée. Ça attirait beaucoup d'attention, pas dans un bon sens. Mais j'avançais pas d'un pouce. Le moteur était réduit à l'impuissance. Les roues n'étaient plus esclaves du moteur. C'est un peu l'idée que le péché, nous sommes morts au péché. Notre vieille nature qui a été crucifiée, à la mort lente, il y a des moments où elle va être comme ce moteur qui dit vas-y, 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 vas-y. Mais je n'ai pas à embrayer et à mettre tout mon être en marche avec ce péché. J'ai la possibilité de pécher.
I have the possibility of sin.
Mais je ne suis plus obligé.
But I'm not required.
Et si vous me dites que vous êtes obligé, je vous dirai peut-être c'est parce que vous ne priez pas le Seigneur lorsqu'il la tentation est au plus fort.
And if you tell me that you're obliged to sin, I'm going to respond that maybe you're not asking the Lord for help in those moments.
À chaque fois qu'il pêche, le chrétien fait un choix délibéré.
Every time a Christian sins, we make a deliberate choice to do that.
Et peut-être que comme moi, il y a des moments où vous savez bien que vous décidez de pécher.
Like well,
Il y a des moments où je me dis, tant pis, je vais laisser exploser ma colère avec Nancy, si on a des problèmes. Ça va faire du bien. Comme le péché, c'est toujours sur le moment. Les conséquences ne seront pas brillantes pour moi. Pour ceux qui nous entourent. Mais zut alors, je vais me laisser gagner par la colère. Des fois, c'est moins long comme raisonnement. Mais le chrétien n'est plus esclave du péché. Un auteur qui s'appelle W. Graham Scroggy j'ai oublié comment ça se prononçait. Explique, je vais.
It's very insightful.
Il y a des bonnes idées.
And he has good ideas.
Il dit, si la mer rouge est une illustration du jugement de Dieu sur le péché, souvenez, il y avait l'ange de la mort qui péchait, qui passait pour punir le péché. Par la Pâque et le passage de la mer rouge, les Israélites ont échappé à cette à ce châtiment. Il dit, le Jourdain est une illustration du jugement sur le moi égoïste. Le chrétien n'est pas un vieux moi rénové, mais crucifié. Un nouveau moi a été implanté, transplanté.
A new me has been planted, transplanted.
Vous vous souvenez que on n'en avait pas parlé la semaine dernière, faute de temps, mais le Jourdain, où est-ce qu'il a été coupé? À quel endroit? Stop. À un endroit qui s'appelait Adam. Adam, le nom de notre premier ancêtre.
And it's the same name as our first ancestor.
Et là, en coupant le Jourdain à Adam, c'est comme Dieu nous dit qu'il a détruit le vieil homme.
And when God separated the river, stopped the river at this point, it's as if he's telling us he's cutting off or destroying the old Adam.
Paul, dans Romains, explique longuement que nous sommes entrés dans le péché à cause d'Adam.
And Paul, in the book of Romans, explains at length that we entered into sin because of Adam.
Et que nous pouvons échapper à la condamnation par le nouvel Adam qui est Jésus-Christ, le nouvel homme.
And we can escape the condemnation for this when we turn to the new Adam, Jesus Christ.
Cet auteur, Scroggy,
Scroggy,
dit que peut-être la dernière vérité que nous sommes prêts à croire et après à prendre en compte pour notre vie, c'est que notre vieille nature a été mise à mort sur la croix et doit être constamment considérée comme morte. Dans notre vie, les choses que nous déplorons, que nous regrettons, ce sont des choses qui sont le fait de notre vieille nature et il dit, c'est pour ça que Paul nous exhorte à nous considérer comme morts au péché, comme vivants au Dieu, pour Dieu en Christ Jésus. Dieu voit le croyant comme mort et ressuscité en Christ.
God sees the believer as dead and resurrected in Jesus.
Mais pour nous, ça va être une véritable révolution spirituelle. Quand nous allons commencer à nous voir de cette façon. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
In 2 Corinthians 5:17, it tells us, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come.
Encore une fois, nous ne sommes pas appelés à essayer de mourir.
Again, we are not called to try to die.
Mais à reconnaître le fait que nous sommes déjà morts.
But to recognize the fact that we are already dead.
Bien sûr, vous allez me dire, mais mon moi n'est pas mort.
And of course you are going to tell me myself is not dead.
Comment pourrais-je reconnaître qu'il est mort ?
How can I acknowledge it as dead?
Et Scrooge, notre ami,
and our friend Scrooge
répond,
answers,
cette façon de raisonner ne prend pas en compte toute la réalité.
This way of reasoning doesn't take into account all the reality.
Et il dit, pensez à un homme qui est condamné à mort pour meurtre.
He tells us to think of the example of a man condemned to death for a murder.
Et qui attend son exécution dans sa cellule.
And is awaiting his execution in his cell.
Pour lui, il y a deux choses qui sont vraies.
For him, there are two things that are true.
Premièrement, il est mort.
First of all, he's dead.
Et deuxièmement, il n'est pas mort.
And second of all, he isn't dead.
Parce qu'au regard de la loi, il est mort quand la sentence a été prononcée.
Because in the eyes of the law, he is dead at the moment when his sentence is announced.
Il va physiquement mourir quand la sentence va être exécutée. Dans sa cellule,
in his cell,
ce condamné est privé de liberté,
the condemned man is deprived of his freedom,
de tous ses droits, de ses privilèges,
all his rights, his privileges,
de son existence dans la société.
His existence in society,
par son péché, il a renoncé à tout cela.
And because of his sin, he's given up his rights,
et dans ce sens, il est mort.
And in this sense, he is dead.
Il est un mort vivant jusqu'à ce qu'il monte à l'échafaud. Et là, il sera un mort-mort. Ça, c'est moi qui ajoute ça. De la même façon comme Christ est mort,
way, Christ died,
notre vieille nature de pécheur est sous le coup d'une sentence de mort. Elle est privée de tous ses droits. Elle attend que le jour de notre décès ou le retour de Christ pour être éliminée. Une vérité spirituelle qui nous dépasse, mais qui est terriblement libératrice. Et encore une fois, ce n'est pas une justification pour pécher, mais c'est de penser sans arrêt que la parole nous l'annonce à maintes reprises, je vous ai donné plusieurs passages, nous sommes morts avec Christ. Et le péché a cessé d'exercer sa tyrannie sur nous. Je dis des fois, c'est comme un peu si il y a un chien qui est attaché avec une grosse chaîne à sa niche. Qui est à l'intérieur de sa niche. Et on peut couper la chaîne.
And he's inside the house. We could cut the chain.
The kennel.
The kennel.
La niche.
The dog's house.
Il est libre. Il peut partir.
He could go.
Mais il est libre aussi de revenir avec la chaîne coupée dans la niche.
But he is also free to return to his dog house with the chain.
Et lorsque nous décidons de pécher, lorsque nous décidons que la tentation est trop forte, que nous disons à Dieu, tu peux regarder de l'autre côté, nous revenons dans la niche. Et c'est ce que symbolise ces pierres.
That's what these stones symbolize.
Posées par Josué dans le Jourdain et sur la rive du Jourdain.
These stones that were placed by Joshua in the river and on the bank of the Jordan.
Alors ça, c'est la signification profonde pour nous.
And that's the profound significance for us.
C'était aussi un mémorial, quelque chose qui devait aider les Israélites à se souvenir de la puissance de Dieu dans leur vie. Il est dit, verset 6,
it tells us in verse 6,
afin que cela soit un signe au milieu de vous.
So that this might be a sign among you.
La rive droite du Jourdain, ils se sont installés pour camper, c'est ce qu'on appelle Gilgal. C'était un endroit qui s'appelait Gilgal.
The right bank of the Jordan River is where they installed themselves to camp. It's known as Gilgal.
Le nom de Gilgal, ça veut dire cercle.
The name Gilgal means circle.
Oui, ou quelque chose qui est rond.
Or something that is round.
Ou roulement, l'idée de quelque chose qui roule.
Or the idea of rolling, something that rolls.
Et au chapitre 5, verset 9,
and in chapter 5, verse 9,
l'Éternel a dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. » Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal, qui veut dire roulement, jusqu'à aujourd'hui.
The Lord says to Joshua, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. So the name of that place is called Gilgal to this day.
Et nous allons le voir par la suite, Gilgal, c'est un endroit où il revenait se ressourcer.
And we'll see later that Gilgal becomes a place where they come back to be refreshed.
Quand ils ont des victoires, ils viennent les célébrer.
When they have victories to celebrate.
Quand ils ont des défaites, ils viennent demander la grâce de Dieu.
Or when they have defeats and they need to ask for God's grace.
Et à chaque fois, ils voient ces pierres.
Every time they see these stones,
qui leur rappellent comment Dieu leur a fait part de sa puissance pour traverser ce Jourdain, comment il les a menés. Alors certains disent, elles sont là jusqu'à aujourd'hui, ces pierres, il est dit. Je ne sais plus quel verset, mais on l'a lu. Alors et bien entendu, certains disent, on peut aller voir aujourd'hui, voir si on retrouve au milieu du Jourdain des pierres. En fait, ces pierres, elles étaient encore là à l'époque où Josué a écrit son récit, je pense. Mais qui sait?
Who knows?
Si vous allez là-bas,
if you go there,
n'oubliez pas votre masque.
Put your mask on.
Toujours est-il que à chaque fois qu'il revenait à Gilgal, souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux les renforçait, les rafraîchissait.
The memories of what God had done for them, refreshed them, restored them.
La question c'est, est-ce que vous avez, est-ce que j'ai un Gilgal?
The question to ask is, do I have a Gilgal?
Alors ça n'a pas besoin d'être des galets sur la promenade des Anglais. Une époque où Sébastien aimait bien construire des Gilgal. Avec des gros rochers.
With the big rocks.
Il avait fallu l'emmener aux urgences une fois.
One time he had to take him to the emergency room.
Parce qu'une grosse pierre il avait laissé tomber sur son pouce. qui avait...
Je
ne parle pas de quelque chose de physique, mais quelque chose dans votre cœur. Un endroit où quand ça ne va pas, vous dites, mais attends. J'ai tous ces souvenirs de victoire avec le Seigneur. Un Gilgal, c'est aussi votre moment régulier de passer avec le Seigneur tous les jours. Est-ce que vous avez un Gilgal tous les jours? Est-ce que vous allez à Gilgal? C'est très important de faire un peu la liste dans votre vie des moments où vous avez vraiment senti l'expérience de Dieu, sa présence. Son intervention. Plusieurs d'entre vous ont suivi un cours il y a un an ou deux qui s'appelait Comment faire l'expérience de Dieu. Et l'auteur parlait de ce qu'il appelait les bornes spirituelles basées sur le principe de ces 12 pierres placées dans le Jourdain. Et je cherche la définition qu'il en donnait. En fait, une borne spirituelle, c'était un moment de transition, de décision, de direction, où je reconnais clairement que Dieu m'a guidé. Non seulement ça sert à nous fortifier dans le Seigneur, mais ça sert de boussole.
But it also serves as a compass.
Ça sert à nous diriger.
To direct us.
Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire dans les mois, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Cette étude nous encourageait à trouver un peu ces bornes spirituelles.
And this study encouraged us to look for these spiritual landmarks.
Pour voir au travers de ces points cruciaux comment le Seigneur nous a dirigés.
To be capable of seeing in these crucial moments places where God directed us.
Parce que quelque part, Dieu est économique dans la façon dont il nous dirige. Économique, non pas au sens financier, mais quand il est prêt à ce que nous fassions un pas ou qu'on change de direction, pour son activité, pour le servir, ce sera toujours à la suite de ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Autrement dit, Dieu a de la suite dans les idées lorsqu'il agit avec vous. Il a un plan pour votre vie. Jérémie 29:11-13. Et il ne va pas d'un seul coup partir sur une tangente. Il ne va pas faire des détours inutiles. Il a un plan pour votre vie. Il va vous permettre de voir où il vous emmène quand vous regardez à ces bornes spirituelles. Et donc, important de chercher dans votre vie. Prenez une feuille de papier un matin ou un soir et essayez de vous rappeler ces moments où vous avez vraiment senti que Dieu vous a guidé, Dieu vous a parlé, Dieu vous a interpellé, Dieu vous a repris.
So it's very important to take a piece of paper and sit down and try and those moments in your life when you really sensed God intervening, reminding you, calling out to you, moving.
Et au moment où vous allez devoir prendre une décision importante, vous allez dire, mais je ne vais pas partir à 180 degrés.
And at that moment, when you have to make an important decision, you won't go and turn 180 degrees on a tangent.
Vous allez suivre la direction qu'il a déjà impulsée, imprimée à votre vie spirituelle.
In the direction that he has also already stamped your life with.
C'était un signe pour nous.
So these stones were a sign for us.
Et verset 6, lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous ?
And in verse 6, it says, when your children ask later, what do these stones mean to you?
C'était aussi pour rappeler à la génération suivante la puissance de Dieu à l'œuvre.
They were also to remind the next generation of the power of God at work.
Nous avons célébré, c'est aujourd'hui la fête des mères.
We are celebrating, today is the, is Mother's Day.
Mais au verset 21,
and verse 21,
nous voyons que les enfants vont demander à leur père que sont ces pierres.
We see that the sons are going to ask their fathers, what are these stones?
Et ça, ça nous rappelle que c'est au père qu'incombe en premier la responsabilité d'élever leurs enfants dans la foi en Dieu.
That had the first responsibility of raising their children in the Lord.
Ça, on le trouve dans l'Ancien Testament. Nous le trouvons aussi dans le Nouveau Testament.
Testament.
Vous vous souvenez, lorsque les gens amenaient des enfants à Jésus, les disciples voulaient les repousser. Et il dit, des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'ils les touchent. Marc 10, 13, mais les disciples leur firent des reproches.
Et dans Marc 10, verset 13, ils voulaient amener des enfants à lui, mais les disciples rebuked.
En fait, si on regarde dans la langue originale, le grec, les gens à qui les disciples font des reproches, ce sont des masculins pluriels, des hommes. C'était des hommes qui amenaient leurs enfants. Et donc c'est un rappel, bien sûr, si le papa est là, que c'est à lui qu'incombe en premier lieu la responsabilité d'élever spirituellement ses enfants.
So in families where the father is present, it is his responsibility first to raise the children up.
Dans le couple, c'est le mari qui est le leader spirituel.
And in a couple, the husband is to be the spiritual leader.
C'est lui qui doit protéger sa femme, qui doit la faire grandir dans la foi.
He is the one who is to protect his wife and to aid her in growing in her faith.
Trop souvent, c'est l'inverse, malheureusement.
Unfortunately, too often, we find the opposite.
Mais dès le départ, avec Adam et Ève,
but from the very beginning, with Adam and Eve,
c'est peut-être Ève qui a cédé à la tentation.
It was Eve who might have given in to temptation.
Mais c'est Adam qui est considéré comme responsable.
But Adam is the one who is considered responsible.
Qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'Eve parlait au serpent ? Est-ce qu'il a gardé la Coupe du Monde ? À l'époque, c'était rapide. Qu'est-ce qui reste dans la vie du chrétien aujourd'hui comme commémoration ? Il y a le baptême. Le baptême qui est un symbole d'une réalité que nous avons déjà vécue, la nouvelle naissance.
Baptism, which is a symbol of a reality that we have already experienced, a new birth.
Quelque chose que les autres peuvent voir.
Something that others can see.
Les enfants sur la plage peuvent se demander pourquoi est-ce qu'un tel se fait tremper dans l'eau.
Children on the beach must ask why is that person being pushed into the water.
C'est aussi un souvenir fort pour vous de vous rappeler, oui, j'ai publiquement donné, consacré ma vie à suivre Jésus-Christ.
It's also a strong remembrance for you of the moment when you gave your life to Jesus Christ.
Et puis l'autre devoir de mémoire que nous avons, c'est bien sûr la Sainte Cène que Jésus a instituée.
And the other work of to keep in our memories is the idea of the of communion.
Que nous allons prendre ensemble maintenant. Nous allons prendre un moment de réflexion.
So we'll take just a few minutes of reflection.
Peut-être de penser un peu à ce que Dieu vient de faire dans votre vie, ou même il y a un peu plus longtemps. Mais surtout de se rappeler du sacrifice qu'il a fait par amour pour nous. Lui qui nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Parce que non seulement nous nous souvenons ce qu'il a fait, mais nous annonçons aussi ce qu'il va revenir. J'aimerais qu'on prenne un temps de recueillement. Je demanderais peut-être, Zoé, tu pourrais juste faire un peu de jouer un ou deux morceaux instrumentaux, s'il te plaît. En ce temps-là, je demanderai à Paul et Tonio de passer les emblèmes.
And Paul and Tonio will pass the communion elements.
Le pain et le vin, le fruit de la vigne, plus exactement.
The bread and the fruit of the vine.
Et je vous demanderai d'attendre que nous ayons tous reçu ces éléments avant de communier ensemble. Encore une fois, demandez pardon à Dieu pour vos péchés.
Again, we need to ask God forgiveness for our sins.
Et si vous n'avez pas encore traversé la mer Rouge, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous demanderons de laisser passer ces éléments. Venez me parler plus tard si vous souhaitez recevoir le Seigneur. Mais la parole nous dit que si nous buvons sans être en état de le faire, nous appelons un jugement sur nous-mêmes. Prenons un temps de silence et de prière personnelle devant le Seigneur.